Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Mon être est brisé, je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Mon être est brisé.
Quel bon moment extraordinaire. Alléluia. Mon cœur est dans la déception, dans la tristesse. Ben si, parce que vous partez bientôt. Alors je me dis que c'est dommage. Je rêve à une église vivante et bouillante comme cela partout en France. Alléluia. Jour et nuit des louanges. Alléluia. Jour et nuit, Dani et Moïse au clavier, violon. Il est fatigué, il a envie de s'arrêter. Non, continue, il y a encore des gens nouveaux qui rentrent. Continue à jouer, chante, alléluia. Ça fait 10 heures déjà, j'arrête. Non, continue, il y a encore la nuit à finir. Alléluia. Et oui, on relie avec les jeunes et les moins jeunes et tout ça ensemble. Ça va mettre le feu. Alléluia, alléluia. D'excellentes choses, de bonnes choses. J'aimerais vous dire, et on va laisser ces quelques paroles sur le CD, que vous allez repartir chez vous. Vous allez rentrer dans quelques instants. Et j'aimerais vous dire ceci avant de commencer mon message. Repartez, mais repartez avec sagesse. Repartez avec intelligence, parce que ce n'est pas en vous confrontant à des pensées différentes des vôtres et en prenant des positions dures et fermes que vous allez pouvoir faire passer ce que vous avez reçu pendant cette semaine. Nous l'avons vu, plusieurs pasteurs en ont parlé. Priez, priez, agissez avec amour, agissez avec patience. Ne retournez pas dans vos assemblées en mettant le bazar, en disant « Oh, on a vécu des choses extraordinaires à Andrézieux, maintenant il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. » Non, faites pas ça, dites pas ça, parce que là vous allez plus risquer de frustrer, de bloquer, d'arrêter, plutôt que vous, laissez émaner ce que le Saint-Esprit a mis dans votre cœur. Vivez ce que Dieu vous a communiqué. Les uns et les autres, eh bien, nous n'étions pas comme cela depuis toujours. Nous avons découvert, nous avons grandi, Dieu nous a parlé, il nous a instruits. Il y a des choses que je fais aujourd'hui, j'étais fortement opposé il y a 10 ans. Mais oui, je ne comprenais même pas pour comment ces gens pouvaient faire des choses pareilles. Pour moi, à la limite, il aurait même fallu presque les éradiquer. Et aujourd'hui, je le fais. Aujourd'hui, je loue, j'adore, je célèbre, je bouge, parce que Dieu a touché mon cœur. Mais si des gens m'avaient cassé les pieds en me disant « Non, c'est comme ça, c'est pas autrement ben, », je peux vous assurer qu'ils ne me cassent pas les pieds longtemps. Au bout d'un moment, ça lasse, ça fatigue. Alors repartons avec sagesse, repartons avec amour. Et puis prions. Oui, il y a des situations de blocage, il y a des situations qui ne vont pas, on le sait. On va prier pour ça. Engagez-vous à prier, engagez-vous à prier pour que ça change. Alléluia. Amen. Alors je vous ai dit dans cette semaine que la conclusion... Je ne savais pas trop quoi apporter, parce que les autres années, je préparais toujours les messages de fin, et puis ça n'allait jamais. Quand on arrivait à la fin, ça ne correspondait pas. Le message du début, ça allait, mais le message de fin, ça ne correspondait jamais, parce que le Saint-Esprit, pendant cette semaine, avait orienté, dirigé, conduit les choses d'une certaine manière. Je me dis, bon, ok, je suis obligé de tout recommencer, c'est reparti. Donc maintenant, je ne prépare plus rien, et j'attends le dernier moment. Mais en même temps, j'ai vraiment réfléchi à ça, et on aurait pu faire une conclusion, rassembler tous ces points de cette semaine. On a vu beaucoup de choses, il y a eu d'excellents messages, il y a eu d'excellentes paroles. Mais je crois qu'il est bon de repartir vraiment avec quelque chose de très pratique. Je vous ai dit que j'enseigne ici que nous ne devons plus dire aux chrétiens ce qu'ils doivent faire. Nous devons leur montrer comment ils doivent faire. Et ce séminaire de jeûne et prière est un exemple. Voilà comment vous devez prier aujourd'hui. Ne recommencez plus en rentrant chez vous, à vous asseoir et puis à être là et puis à mormonner comme ça dans votre barbe et à dire « Non, non, prenez des positions de victoire ». Mettez-vous debout, commencez à proclamer la parole de Dieu, Alors justement, en parlant de proclamer la parole de Dieu, eh bien nous allons voir quelques détails. Et le thème ce matin, eh bien c'est celui-ci. Prier, intercéder en proclamant une parole de vie. Alléluia. Et on va faire un exercice très très pratique. C'est la suite du CD qui s'appelle « Défis et combats dans la prière ». Où là, je donne 6 points que je vais résumer rapidement. Et est-ce que vous avez déjà pris ce CD qui vous enseigne à intercéder, à prier, à appliquer la parole de Dieu d'ailleurs à votre vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne l'a pas pris et que ça intéresserait? Allez, venez le chercher, je vous le donne. Voilà, là, ça. Elle s'est levée. Si vous êtes intéressé, il y en aura d'autres et vous pourrez les obtenir. Il y a 6 points essentiels et je vais en prendre un essentiellement que je vais développer maintenant. C'est un des plus importants. Le premier point sur ce CD, point numéro 1, c'est la base sur laquelle on s'appuie pour entrer dans le combat de la prière. La seule base qui est indispensable pour nous, c'est la parole de Dieu. Il n'y a aucune autre base. Et je vous invite vraiment à retourner à la parole de Dieu aujourd'hui. La parole de Dieu, la Bible, n'est pas un livre poussiéreux qu'on laisse à côté et qu'on utilise une fois de temps en temps. Non, c'est le pain de vie. C'est la parole de Dieu qui vient et qui vient nourrir notre âme. Elle est indispensable. Vous ne pouvez pas concevoir d'entrer dans le combat spirituel sans vous appuyer sur la parole de Dieu. C'est la première base indispensable. Deuxième élément, vous avez besoin, une fois que vous avez la parole de Dieu, d'apprendre à rentrer en relation, en communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas un atout, ce n'est pas un attribut de Dieu, c'est la personne du Saint-Esprit. Nous pouvons parler au Saint-Esprit. Il est une personne. Il nous entend. La Bible nous dit qu'il entend. La Bible nous dit qu'il voit même. Il parle même. Et il a un job. Le Saint-Esprit a été envoyé sur terre. Jésus a dit, quand le Consolateur sera venu, on verra ça tout à l'heure, il a un ministère très particulier, nous conduire dans toute la vérité. Moi, je veux le ministère du Saint-Esprit. Je veux que le Saint-Esprit me conduise, me dirige dans toute la vérité. Pour cela, nous avons besoin d'habituer nos voix, nos cœurs, nos oreilles, notre esprit, à entendre la voix du Saint-Esprit. Afin que nous puissions discerner si c'est vraiment lui qui parle, ou si c'est quelqu'un d'autre qui parle. Le diable nous bombarde de mauvaises pensées, nous le savons. Certaines personnes sont venues me voir et ont dit « Priez pour que je n'ai plus de mauvaises pensées ». Je dis « Je ne peux pas, je ne peux pas. Vous aurez toujours des mauvaises pensées ». Alors certains me regardent en me disant mais non, mais j'ai des pensées impures ». Je dis « Je sais ». Je dis « Moi aussi ». On a tous des mauvaises pensées. Pourquoi ? Parce que le diable ne fait que nous bombarder de mauvaises pensées. C'est la manière qu'il utilise pour essayer de nous assaillir, pour essayer de nous oppresser, pour nous amener dans la tentation. Maintenant, il y a 3 choses bien importantes. Premièrement, les pensées viennent de 3 domaines bien différents. 1, nous avons des pensées humaines. Alors ces pensées humaines, elles sont soit bonnes, soit mauvaises. On est d'accord. Pour savoir si elles sont bonnes ou mauvaises, une seule solution, les confronter à la parole de Dieu. Lorsque nous confrontons nos pensées à la parole de Dieu, alors Dieu donne son approbation si elles sont bonnes ou Dieu nous parle si elles ne sont pas bonnes. On est d'accord. Le diable, lui, met dans nos cœurs des pensées. Là, nous savons qu'elles sont de toute façon toujours mauvaises. Donc, nous devons apprendre à rejeter ces pensées au nom de Jésus-Christ. Troisièmement, il y a une troisième direction où les pensées peuvent venir quand elles viennent de Dieu. Et là, nous savons que les pensées de Dieu, elles sont formidablement excellentes. Donc, bien sûr, nous gardons ces paroles-là. Maintenant, il y a une différence. Des mauvaises pensées, on en aura toujours parce que le diable cherchera de toute façon jusqu'à la fin de notre vie à nous assaillir. Il cherchera toujours à vouloir nous condamner, il cherchera toujours à nous faire basculer dans le péché, à succomber à la tentation. Toujours, jamais il va dire « Oh, vous avez passé une semaine de jeûne et prière, c'est fini. Oh, je vous touche plus, vous êtes des gens trop forts pour moi. Jamais je vais continuer à vous assaillir, je vais m'occuper d'autres. » Non, au contraire. Tu as vécu des choses formidables avec Dieu. Peut-être que la semaine prochaine, ça risque d'être difficile. Mais accroche-toi. Continue à prier, continue à te tenir devant lui. Je suis plus fort que toi parce que celui qui est avec moi, il est nettement plus fort que toi. Et ils sont plus nombreux que vous tous. Donc je vais me tenir dans la foi, avec une confiance absolue. La seule chose à faire par contre quand nous avons ces mauvaises pensées, c'est de recevoir une mauvaise pensée, analyser que la pensée est mauvaise, et rester dans la mauvaise pensée, entretenir la mauvaise pensée, la faire sienne, parce que c'est ça qui nous conduit dans la tentation, et ensuite à succomber à la tentation. Et le péché ensuite, c'est quand on succombe à cette tentation. Donc nous devons apprendre à refouler nos mauvaises pensées. Je prends l'exemple parfois de certains pigeons. Quand on se balade dans certaines villes, ben, on reçoit des fois quelques trucs sur la tête et c'est pas agréable. D'accord ? Mais notre responsabilité, c'est de faire en sorte que recevoir quelque chose, on n'y est pour rien. Vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que vous êtes pour quelque chose ? Quand il y a un pigeon, il vous fait un truc sur la tête, c'est désagréable, mais vous n'y êtes pour rien. Vous passiez là, ça vous est tombé dessus, c'est comme ça. Maintenant, c'est votre responsabilité, si vous permettez au pigeon de s'installer sur votre tête, de faire son nid, de commencer à faire toutes sortes de choses sur votre vie. Et bien, c'est exactement la même chose avec les mauvaises pensées. Il y a des mauvaises pensées qui arrivent, c'est pas notre faute, c'est comme ça. La vie est faite comme cela, le diable cherche à nous assaillir de cette manière-là. Ok, il y a des mauvaises pensées. Mon rôle, c'est de chasser au nom de Jésus ces mauvaises pensées. De ne pas les laisser sur mon cœur. Je ne veux pas les laisser s'installer, faire leur nid, faire leur demeure, afin de souiller encore ensuite mon cœur et ma vie. Alléluia. Amen. Donc cette relation avec le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est important, apprendre à entendre la voix de l'Esprit. Troisièmement, nous avons besoin de prier selon les Saintes Écritures. Je disais que la base, c'était la parole de Dieu, et nous devons apprendre à prier selon la parole. Et ça, c'est quelque chose qui est difficilement, parfois, je pense que les gens le comprennent, mais je ne comprends pas, moi, dans mon sens, pourquoi ils le mettent pas en pratique, par exemple, dans les réunions de prière. Nous devons apprendre à prier selon la parole de Dieu, selon les saintes écritures. Il y a eu un exemple qui a été donné par le pasteur Henri Deville dans la semaine. Il a cité ce chapitre, enfin ce verset, dans Ésaïe chapitre 61, le verset premier. Et c'est exactement, étonnamment, ce verset pour lequel je prends également cet exemple. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir pour ceux qui ont le cœur brisé, etc., etc. Vous connaissez ce verset ? C'est Jésus qui s'est approprié cette parole et qui a accompli cette parole. Mais je crois qu'aujourd'hui, est-ce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire que l'Esprit du Seigneur est sur nous ? Moi, je peux dire aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que, Seigneur, tu m'as oint. Nous sommes oints. Faisons pas partie de la secte des oints-oints. Nous sommes oints, pas simplement nous les pasteurs, mais vous tous. Vous êtes oint parce que vous avez accepté Jésus dans votre cœur. Il vous a rempli de son esprit. Vous êtes des oints de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es oint. Alors moi, j'ai pas de honte à prendre ces mêmes paroles de Jésus et dire oui, Seigneur. Seigneur, tu es celui qui est sur moi aujourd'hui. Ton esprit est sur ma vie. Tu m'as oint. Et tu m'as oint pourquoi ? Eh bien, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Y a-t-il pas des malheureux autour de nous ? Nous avons été oints pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Nous avons été oints pour envoyer et communiquer la guérison, pour envoyer ceux qui sont dans la maladie un esprit d'espérance, de secours, de leur dire en Jésus-Christ, quelque chose peut se passer dans votre vie. Et nous avons été oints pour cela. Donc ce verset, nous pouvons nous l'approprier, proclamer aux captifs la liberté. Alléluia. Aux prisonniers la délivrance. Publier l'année de grâce. Alléluia, alléluia. Il y a des choses. Appuyez sur le bouton, sœur. Ce même verset, est-ce que tu peux remettre le début ? Juste le verset d'avant, voilà. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Nous désirons que l'Esprit de Dieu soit sur notre église. Ne désirez pas que l'Esprit de Dieu soit sur votre village. Ne désirez pas que l'Esprit de Dieu soit sur votre ville, sur votre région. Alors commencez à prier en prenant la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est vrai. Seigneur, je commence à te prier en te disant que ton Esprit soit sur ma ville, que ton Esprit soit sur mon village, que ton Esprit soit sur ma maison, que ton Esprit soit sur ma région, que ton Esprit soit sur notre pays de France. Et puis vous commencez à défiler ce verset pour guérir, pour sauver, pour libérer. Alléluia, alléluia. Et puis nous devons ensuite confesser la parole de Dieu sur nos propres vies également. Et ça, c'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Et les deux autres points qui sont sur le CD que je n'aborderai pas aujourd'hui, c'est aussi prier selon le Saint-Esprit. Je disais tout à l'heure d'être attentif au Saint-Esprit, d'apprendre à entendre sa voix. Mais quand vous commencez à découvrir le combat spirituel, vous allez apprendre à prier selon ce que l'Esprit lui vous dit. Vous partez dans la prière avec des sujets, mais au fur et à mesure que vous commencez à intercéder, au fur et à mesure que vous commencez à prier, alors que vous rentrez dans le contact avec Dieu, alors le Saint-Esprit commence à parler à votre cœur, et là il commence à déposer des sujets sur votre cœur, et il commence à vous inspirer, il commence à montrer des choses particulières, des choses précises, et là vous ne devez pas résister, vous devez dire oui Seigneur, même si c'est pas dans mon plan, je change de direction, et je me laisse diriger, je me laisse conduire, je me laisse orienter par toi. Et là, vous allez vraiment entrer dans le combat spirituel. Vous savez, le combat spirituel, c'est un petit peu, je prends souvent l'exemple du temple. Parce que dans l'exemple du temple, vous avez un petit peu tous ceux qui sont sur le parvis. Le parvis, je prends souvent l'exemple de l'église. On est là, on se rassemble, on chante et cantique, on loue le Seigneur, on essaye de participer aux différents, on écoute la parole de Dieu, etc. Mais certains restent sur le parvis, ils vont pas plus loin. Ils restent sur le parvis, ils sont là comme des spectateurs, simplement comme des auditeurs, mais ils n'entrent pas pleinement dans la participation. Le combat spirituel, c'est la même chose. Tu peux être un spectateur du combat spirituel, tu peux être simplement un spectateur de ta prière, parce que tu sais prier avec ton intelligence, alors tu exprimes ce que tu sais faire, mais Dieu veut plus que cela. Il veut nous rendre participants de l'intercession. Il veut pleinement nous faire entrer. Et alors, quand nous sommes sur le parvis, ce que Dieu désire, c'est qu'ensuite nous puissions entrer dans le lieu saint. Et quand on rentre dans la présence de Dieu, petit à petit, on entre dans le lieu saint. Et le lieu saint, c'est quand on commence à adorer, c'est quand le Saint-Esprit commence à nous remplir, quand les choses de ce monde n'ont plus d'importance pour nous parce qu'on est là et on a fixé un temps que pour lui et nous. Et on commence à rentrer dans sa présence, c'est quelque chose d'extraordinaire. On entre dans le parvis, ensuite on passe au lieu saint, et puis il y a le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est lorsque son Esprit descend pleinement sur nous. Et qu'alors, des choses parfois, de révélations commencent à prendre naissance en nous. Il y a un contact qui est plus un temps d'adoration, c'est plus un temps de vénération, c'est un temps de relation, de contact intime, proche, comme ce verset où il nous a dit que, dans une certaine version de la parole de Dieu, Moïse, quand il était sur la montagne, Dieu lui parlait bouche à bouche. Pour montrer l'intimité qu'il y avait dans le sens du rapprochement de l'état de cœur. Plus rien ne pouvait séparer Moïse de Dieu. Plus rien. Il y avait cette relation intime et proche avec lui. Et nous devons apprendre à passer ces différentes étapes lorsque nous sommes là et que nous partons en disant bien, j'ai pas reçu, il y a quelque chose qui s'est pas. Peut-être on est resté sur le parvis. Parfois les événements de notre vie, les épreuves, les douleurs, les combats, les luttes, les moments difficiles nous font rester sur le parvis. On a du mal à entrer, on a du mal à aller plus loin. Pour ce séminaire de jeûne et prière, par exemple, je sais que certains m'ont dit, mais les 2-3 premiers jours, c'était dur, j'arrivais pas à entrer. Et puis il y a plein de choses qui peuvent nous arrêter. Vous chantez pas de la même manière que nous, vous louez pas de la même manière que nous, vous parlez dans une langue bizarre, il y a des choses, la parole c'est pas comme nous, et il y a plein de choses qui peuvent nous arrêter. Le problème c'est que le diable aussi sait mettre plein de petites choses dans nous, au cœur des Français, parce que nous on est très arrêtés. Parfois, une toute petite bricole, ça va nous arrêter. Ouh là là, non, ça c'est pas. Alors que le Seigneur nous dit, mais passe là-dessus, c'est des broutilles, qu'est-ce que tu t'embêtes avec ça? Regarde le fond. Regarde le fond de la chose. Regarde ce qui est important. Ne regarde pas aux choses qui sont autour. Et nous devons apprendre aujourd'hui à regarder l'Église de Jésus-Christ dans son essence même, dans le fond. Et nous devons proclamer le fond. Je parlais il y a quelques jours des absolus. Les absolus n'ont pas à changer, les absolus de la parole de Dieu. Il n'y a rien qui doit changer. Mais la forme. On est en 2006 aujourd'hui. On n'est plus en 1940. On n'est plus en 1800 et quelque chose. On est en 2006. Vivons avec notre époque. Et communiquons la parole. Quelqu'un un jour, il est rentré dans cette église, m'a dit, mais j'ai jamais vu autant d'ordinateurs dans une église. Il me dit, vous avez des ordinateurs partout, des télés sur l'estrade, des vidéos. J'ai jamais vu ça. Je lui dis, moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a de la technique. Avec la technique, le diable fait plein de choses. Moi, j'ai décidé avec la technique d'annoncer l'évangile. C'est tout. Alors, tout ce qui m'est possible de prendre est inimaginable. Je le prends et je mets Jésus dessus pour annoncer son nom. Alléluia. Et c'est comme ça. Je crois qu'il nous faut changer notre état d'esprit. Prier par le Saint-Esprit alors qu'il parle à notre cœur. Et puis, simplement, un sixième point, très rapidement, comme cela, le pardon. Pourquoi? N'imaginez même pas rentrer dans le combat spirituel et remporter des victoires dans le combat spirituel si des choses dans votre vie, d'abord personnelles, ne sont pas réglées, ou si des choses avec les autres, parfois, ne sont pas réglées également, si, par exemple, vous avez fait du tort à quelqu'un. N'imaginez même pas rentrer dans le combat spirituel. C'est même pas la peine d'y aller. Parce que d'abord, vous aurez beaucoup de difficultés à y rentrer. Et si toutefois, par la grâce de Dieu, vous y rentrez quand même, vous risquez d'avoir certaines choses qui vont vous déplaire. Soyez prêts. Soyez disposés. Il faut se préparer à entrer dans le combat spirituel. Et quand vous rentrez prêt dans le combat spirituel, alors c'est plus une petite réunion de prière classique. Non, c'est un temps de guerre où Jésus a levé sa bannière en disant « Maintenant, tu es prêt ? Vas-y, fonce. Moi, je vais faire le ménage devant. » Et je vais commencer à agir. Et le Seigneur va remplir nos cœurs d'un certain nombre de choses. Et là, nous allons devenir des intercesseurs victorieux. Alléluia. Ensuite, nous avons une autre arme. Vous savez que le diable connaît la parole de Dieu. On a cet exemple formidable avec Jésus. C'est pas lui qu'il faut lui l'apprendre. Lui, il sait.
Souvent, parfois, je dis que les démons sont des plus grands croyants que nous. Ben oui. Ils croient beaucoup plus que nous. Ils ont une conviction profonde de l'existence de Jésus. Ils savent vraiment qui il est. Nous, parfois, on doute, il y a de l'incrédulité. Des gens incrédules viennent, disent non, Dieu n'existe pas. Mais eux, les démons, ils savent que Dieu existe. Ils savent que Jésus existe. Et ils connaissent son autorité. Ils connaissent sa puissance. Et la Bible nous dit, ils tremblent. Ils tremblent parce qu'ils ont cette connaissance. Nous devons avoir la même connaissance qu'eux. Nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et nous devons apprendre à utiliser ce livre extraordinaire pour l'utiliser dans toutes les circonstances de notre vie. Et Dieu sait si les circonstances de notre vie sont nombreuses. On passe par des événements et des temps de joie, d'allégresse, mais on passe par le deuil, on passe par la souffrance, on passe par des moments difficiles, on passe par des combats, on passe par des épreuves, on passe par des doutes également. Nous avons besoin de connaître cette parole. Alors je vous disais que tout à l'heure que j'allais faire quelque chose de très pratique. Eh bien, on va faire quelque chose de très pratique. Et quelque part, si après vous êtes intéressé pour avoir ces feuilles, on en a fait quelques photocopies, tout ce qui va passer ici, avec les différents thèmes que je vais aborder en quelques instants, on pourra vous les donner si vous le souhaitez. Comment dans ma vie personnelle et comment dans ma voiture souvent, je prie comme je vais vous faire voir maintenant. Comment je prends autorité, comment je m'engage avec Dieu en fonction des différents sujets qui peuvent traverser ma vie ou en fonction des différents besoins. C'est très simple. Comme je viens de vous le dire, j'utilise la parole de Dieu. Quand j'ai besoin de foi, je me rappelle de Marc chapitre 9 verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Seigneur, tu vois cette situation qui est devant moi, c'est difficile, mais tout est possible parce que je crois. Tout est possible pour ma vie parce que je crois. C'est écrit dans ta parole. Je crois en ta parole. Tout devient possible maintenant parce que je crois. Commencez à comprendre un petit peu. Je ne fais pas simplement que de lire le verset. Je ne me souviens pas simplement que du verset. Je prends le verset. Je l'approprie à ma vie. Je dis ce verset, c'est ta parole elle est vivante, ta parole vivante, je la veux dans ma vie. Et je veux que ta parole vivante vienne produire du fruit dans ma vie maintenant. Seigneur, j'ai besoin de foi. Il y a une situation qui est difficile devant moi. Moi-même, je ne sais pas comment faire. Seigneur, tout est possible. Tout m'est possible aujourd'hui parce que je crois en toi. Commencez à appliquer la parole de cette manière-là et vous allez voir de quelle façon le Seigneur va commencer à œuvrer. Y a-t-il des moments où vous avez besoin de réconfort, chers amis? Des fois, de temps en temps, ça fait du bien, hein? Alors, je me rappelle à ce moment-là du psaume 46. Dieu est pour nous un refuge. Il est un appui, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Et puis il y a la suite. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Oh, combien parfois dans notre vie, il y a la mer qui commence à vouloir écumer. Combien parfois les montagnes sont là et semblent être ébranlées. Alors je prends ce verset de la parole de Dieu et je commence à dire, Seigneur, tu es le Dieu qui va m'encourager. Tu es le Dieu qui va m'encourager parce que toi, pour moi, tu es un refuge. Pour moi, tu es un appui. Pour moi, tu es un secours. Pour moi, sans toi, eh bien, je suis perdu. Mais avec toi, je ne manquerai jamais de rien. Et je ne manquerai jamais de rien, même au plus profond de ma détresse. Tu seras toujours mon secours et mon bouclier. Et je proclame la parole de Dieu. Je ne fais pas simplement de la lire. Je prends la parole, je l'applique à mon cœur, je l'applique à la situation que je vis. Et je dis, tu es mon secours, tu es mon bouclier, tu es mon refuge, tu es mon appui. C'est sur toi, Seigneur, que je m'appuie maintenant. Tu as écrit. Je crois à ce que tu as écrit. Alors que ta parole prenne vie maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Avez-vous besoin de courage parfois? Alors si vous avez besoin de courage, vous lisez le psaume 37, le verset 8. Car l'Éternel est la justice, il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité du méchant est retranchée. Seigneur, on est des fois dans des situations difficiles. Seigneur, tu vois là les conflits, tu vois les difficultés. J'ai l'impression d'être découragé. Mais Seigneur, toi, tu n'abandonnes pas les fidèles. Attention, les fidèles. Donc ça veut dire qu'il faut que tu apprennes à devenir vraiment fidèle. Raison pour laquelle je disais tout à l'heure, s'il y a des trucs qui clochent là, il vaut mieux les régler avant. Parce que Dieu n'abandonne pas les fidèles, pas les pécheurs, les fidèles, les fidèles. Alors il nous faut apprendre à être vrai. Tu es fidèle, tu n'as rien à craindre. Tu es juste, tu es honnête, tu n'as rien à craindre. Dieu ne t'abandonnera jamais. Jamais. Il sera avec toi. La postérité des méchants, il s'en occupe. C'est lui qui va la retrancher, pas toi. C'est pas toi de t'occuper des méchants. Laisse Dieu s'occuper des méchants. Quand il est question de méchants, j'ai pas trop le temps là, mais c'est la même chose qu'on trouve dans ce même chapitre. Ce sont ceux qui ne suivent pas la volonté de Dieu. Ça peut être des méchants très sympathiques. Il peut se trouver que ce soit des méchants très agréables, avec un verbe bien aligné, avec une attitude très vraiment qui donne envie de côtoyer. Mais Dieu appelle méchant celui ou celle qui ne marche pas dans sa volonté, qui ne complie pas sa voie, qu'il a prévue d'avance pour lui. Ce sont des méchants. Pas simplement la personne qui, selon le dictionnaire, agit de manière méchante, c'est pas cela. C'est celui qui ne marche pas dans sa volonté, qu'il définit dans l'Ancien Testament par ce mot en hébreu, méchant. Mais ici, eh bien Seigneur, je suis dans un moment difficile, il y a la tourmente. Des gens autour de moi sont là, m'accablent et autres. Seigneur, je suis sous ta garde. Alléluia. Je suis sous ta garde. J'ai confiance en toi. De temps en temps, il nous arrive malheureusement de passer par le deuil. N'est-ce pas? Et quand on passe par un moment difficile comme cela, notre cœur est brisé. Alors je me rappelle de ce psaume 34 au verset 19. L'Éternel. Psaume 34, 19, s'il te plaît. Il n'y est pas? Je ne l'ai pas mis. Passe l'écran suivant pour voir. Non, je l'ai oublié. Je vais vous le citer. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Seigneur, je passe par un moment difficile. Un être cher m'a quitté. Mais Seigneur, ta parole me dit que tu es près de celui qui a le cœur brisé. Alors je crois que tu es vraiment près de mon cœur, parce que mon cœur est brisé. Secours-moi, moi qui suis justement dans cette détresse, moi qui suis dans cet abattement, moi qui suis brisé aujourd'hui, tu es près de moi, je ne suis pas seul. Alléluia. Je prends la parole et je l'applique à mon cœur. Amen. Avez-vous parfois des ennemis? Des situations difficiles? Regardez Job, ce qu'il dit, chapitre 8, verset 20. Non! Dieu ne rejette point l'homme intègre. Il ne protège point les méchants. Il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Tes ennemis seront couverts de honte. La tente des méchants disparaîtra. Alléluia. Seigneur, il y a une muraille d'ennemis qui est là. On cherche à ma vie. Seigneur, tu ne me rejettes pas dans mon intégrité. Là encore, intègre. Être juste, intègre. Alors si nous sommes intègres, formidable, le Seigneur ne nous rejette pas, mais il nous protège, il nous garde. Et la Bible nous dit même qu'il va mettre dans notre cœur des cris de joie. Il va mettre dans notre cœur des chants d'allégresse. Et ses ennemis vont être couverts de honte. Et leur tente va disparaître. C'est lui qui s'en occupe. Alléluia. Je prends sa parole, je l'applique à mon cœur et je la mets en vie. Alléluia. Amen. Un autre exemple. Peur, par exemple, à cause de certains événements qui traversent notre vie. Il peut y avoir des craintes, il peut y avoir des peurs. Alors là, je vais chercher Ésaïe 41, verset 13. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite. Qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Bon, il m'arrive parfois, je suis dans la ville, je suis à droite, je suis à gauche, et puis il se passe quelque chose, il y a un événement. Et là, je me dis, mais comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Comment les choses vont? Et là, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Tu es ma droite. Tu es celui qui me fortifie. Je ne crains rien maintenant. Viens, Seigneur, à mon secours. Viens. Et je proclame cette parole de foi. Et vous savez ce qui se passe? Eh bien, le Seigneur, il vient. Amen. Le Seigneur vient. Il intervient. Est-ce qu'il y en a parfois qui ont quelques craintes, quelques anxiétés? Ça arrive d'être anxieux parfois. Alors là, on va chercher le psaume 4 au verset 8. Pardon, le psaume 112, pardon, verset 7. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Vous savez, quand vous recevez la lettre des impôts, là. Seigneur, comment on va faire pour payer tout ça? Comment ça va se passer? Je ne crains pas les mauvaises nouvelles. Je ne crains pas mes mauvaises nouvelles, non. Mon cœur est ferme. J'ai confiance en toi, Seigneur. Alors, comme j'ai confiance en toi, tu vas régler ces choses. Tu vas t'en occuper, toi et toi seul. Alléluia. Chasser la crainte. Ou plutôt non, suite à l'anxiété, la crainte, pardon, l'angoisse, l'insomnie. Ce serait bien que vous coupiez vos téléphones portables, là, ça serait une bonne chose. Dans la sono, là-bas, il n'y a personne. L'insomnie, le psaume 4, le verset 8, nous dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ne lisez pas simplement ce verset-là. Si vous êtes dans cette insomnie, si vous êtes dans cette angoisse, si vous êtes dans cette crainte le soir, la nuit ou autre, vous levez, quelque chose se passe, dis « Non, je veux m'endormir maintenant en paix, je veux me coucher en paix, parce que toi seul es celui qui va diriger, qui va protéger ma demeure, ma maison, là où je suis, tu me gardes, tu me donnes la sécurité là où je me trouve, Seigneur. Alléluia. » Et on proclame cette parole de vie. Chassez toute la crainte. Le psaume 34, le verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Alléluia. J'ai des craintes, Seigneur. J'ai besoin de délivrance. Libère-moi de ces craintes. Libère-moi. Ta parole le dit. Tu es celui qui libère mes frayeurs. Alors libère-moi de mes frayeurs. Alléluia. J'applique la parole à mon cœur. Le psaume 27, verset 1er nous dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. Mais de qui j'aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui j'aurais-je peur ?» Et on proclame cette parole. On essaye de vous intimider, on essaye de vous faire peur. Mais pour qui tu es, toi, pour nous faire peur ? Jésus est avec moi. Qui tu es pour nous faire peur ? Jésus est avec moi. Je suis intègre, je suis juste, je veux marcher dans ses voies. Donc, il est avec moi. Pourquoi aurais-je peur, Seigneur ? Tu es le soutien de ma vie. Alléluia. Persévérer également, ou se préserver plutôt des angoisses. Dans le Proverbe 21, verset 23, il est dit « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Alors des fois, il y a des gens qui viennent, ils s'approchent, ils disent « Seigneur, j'ai besoin d'être libéré. » Ils demandent au pasteur de prier pour eux parce qu'ils sont angoissés, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours ce réflexe, mais est-ce que tu préserves ta bouche, est-ce que tu préserves ta langue de ce qui pourrait en sortir ? Parce qu'il y a des conséquences suite à ça. Alors peut-être en prenant ce verset de la parole de Dieu, on pourrait dire « Seigneur, aide-moi à veiller sur ma bouche, aide-moi à veiller sur ma langue. Que ce qu'il sort de ma bouche ne produise pas d'angoisse dans mon cœur, mais reste véritablement dans ta volonté. » Alléluia. Oh, un verset que vous connaissez tous, c'est vrai que celui-là on l'a cité des centaines et des centaines de fois, certainement concernant la maladie, Ésaïe 53, verset 5, bien sûr. « Il était blessé. » Pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, il dit, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Combien de fois nous avons cité cela ? Mais il y a une différence entre citer ce verset, le prendre et se l'approprier à notre vie. Seigneur, je ne veux pas simplement lire ta parole d'une manière littéraire. Je veux, Seigneur, prendre ta parole, l'appliquer véritablement. Je suis dans la maladie, il y a une situation qui ne va pas là, dans mon cœur, dans mon corps. Il y a quelque chose, Seigneur, par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Je crois que dans tes meurtrissures, j'ai été guéri. Je crois que j'ai reçu, je crois que tu as tout accompli à la croix. Je crois que le sang qui a été versé, ces meurtrissures, là où tu as souffert, c'est pour ma guérison, maintenant, aujourd'hui, en 2006. Parole de vie. Parole de foi, parole de confiance, pardon et guérison. Psaume 103, verset 2. Mon âme, bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Il est dit, verset 3, parce que c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Il commence par pardonner tes iniquités, puis ensuite il guérit ta maladie. Il y a des choses qui ne sont pas justes, c'est vrai, Seigneur, dans mon cœur, peut-être, c'est toi qui pardonnes mes iniquités. Ayons ce réconfort de savoir que Dieu pardonne aujourd'hui encore nos iniquités. Que Dieu pardonne encore nos fautes, que Dieu pardonne encore nos péchés aujourd'hui. Ne soyons pas comme certaines personnes qui, parce qu'elles ont péché, parce qu'elles se sont détournées de la volonté de Dieu, alors se culpabilisent à outrance et pensent que Dieu, eh bien, ne peut plus rien faire pour elles. Et on a certaines personnes comme des cathos qui sont là et qui se tapent sur la poitrine en disant « Je suis mauvais, je suis mauvais, je suis mauvais, je suis mauvais, mais rapproche-toi de Dieu. Oui, je me rapproche de Dieu, mais je suis mauvais, mais je suis mauvais, mais je suis mauvais, mais je suis mauvais. » Et on se culpabilise, et on se culpabilise, et on se culpabilise, et on s'écrase comme ça. Non. Saisissons à un moment donné par la foi en disant « Non, maintenant c'est fini. Tu es celui qui pardonne mes iniquités. Et je veux croire qu'aujourd'hui, tu as encore le pouvoir de pardonner mes iniquités. Oui, j'ai fait des choses qui sont sales devant toi peut-être. Faut avouer. Si c'est le cas, il faut avouer, ça ne sert à rien de les cacher. Oui, il y a des choses qui n'ont pas été. Oui, il y a des choses qui sont mauvaises. Oui, il y a des choses qui sont sales. Oui, j'ai fortement déplu à ce que toi, tu avais prévu pour ma vie. C'est vrai. C'est vrai. Mais je te demande pardon. Parce que tu es celui qui pardonne mes iniquités. Tu guéris mon corps malade. Et parfois, c'est notre cœur qui est malade à cause du péché. Parce qu'on est écrasé, on n'en peut plus. On l'a cité plusieurs fois, le psaume 107, verset 20. Alors, il envoie sa parole et il te guérit. Alléluia! Est-ce que vous commencez à comprendre comment il faut prier aujourd'hui? Un jour, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi vous faites la sentinelle de prière? Ça fait 70 ans qu'en France, il y a des églises qui prient. Je lui dis, ben justement, c'est pour ça que je fais la sentinelle de prière. On a besoin d'apprendre à prier. On a besoin d'apprendre à se positionner devant Dieu. Et on a besoin d'apprendre à dépendre de Dieu. 1 Pierre 5,7 Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Pourquoi quand tu te lèves le matin, tu t'inquiètes? Pourquoi tu te fais du souci de ce qu'il y a dans ton portefeuille ou sur ton compte en banque et comment? Dieu ne sait pas ces choses-là. Pourquoi tu t'inquiètes de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire, de ce que tu vas t'habiller, des factures qui sont à payer? Il le sait. Sois intègre. Sois juste. Arrête de travailler au noir. Sois vrai. Sois sincère. Sois honnête véritablement. Ne triche pas sur ta déclaration d'impôt. J'ai appris dernièrement par différentes stats, pratiquement 60 à 70% des chrétiens évangéliques en France trichent sur leur déclaration d'impôt. Bizarre, hein? Vous voulez recevoir la bénédiction? Et là, de l'autre côté, mais oui, mais vous comprenez, frère, écoutez-moi un instant. Tout le monde le fait. Mais tout le monde le fait, enfin. Ah ben oui, mais c'est pas parce que tout le monde court là où le pont est brisé et qu'ensuite il y a un précipice immense qu'on va aller tous courir là-bas dedans et qu'on va aller tous se jeter. La parole de Dieu nous demande d'être honnête, d'être juste, d'être vrai, soumis aux autorités. Mais tout ce qu'elles nous prennent, les autorités, mais vous avez vu et ceci et cela, et on entend, et c'est vrai, c'est vrai. Mais je veux demeurer fidèle à ta parole, Seigneur. Je veux rien qu'il me soit reproché dans mon cœur, parce que je veux entrer dans le combat spirituel pour remporter des victoires. Et quand je suis dans le combat spirituel, je veux pas qu'il y ait un démon qui se lève et qui me dise, maintenant, toi, je te connais, qu'est-ce que tu fais? Regarde ta démarche, regarde ce que tu vis, regarde ce que tu fais, et tu prêches aux autres, tu parles aux autres, tu témoignes aux autres. Apprenons, si nous voulons vraiment voir notre pays changer, à être juste, à être vrai. Apprenons à dépendre de Dieu. Il y a des problèmes, oui, mais Seigneur, je n'en peux plus. Je dépose à tes pieds tous mes soucis. Parce que toi, maintenant, tu vas prendre soin de moi. Vous avez besoin de protection physique? Le psaume 91 au verset 11 nous dit, « Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. » Alors on le sait, c'est un verset qui a été appliqué à Jésus, mais moi je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur, nous envoie-t-il pas ses messagers pour nous porter dans quelques moments où nous nous trouvons? Pour nous garder, alors qu'il y a des événements, parfois on les voit, on dit, Dieu m'a gardé là. Mais souvent je dis, le nombre de fois où Dieu t'a gardé, tu t'en es même pas rendu compte. Tu t'en es même pas aperçu, tu savais pas du tout ce qui était en train de se passer, et pourtant Dieu t'a gardé quand même. Mais t'as rien vu, t'avais l'impression d'être dans l'invisible, t'as rien compris. Pourtant Dieu il était là, et heureusement qu'il était là. Sinon, qu'est-ce qui se serait passé? Des personnes ont parfois besoin de se sentir aimées également. Elles ont du mal à accepter cet amour. Et vous avez besoin de comprendre que Dieu vous a accepté. Et dans Ésaïe 41, verset 9, alors nous avons besoin de foi de proclamer cette parole. Il est dit, « Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, ma servante, je te choisis et je ne te rejette pas. » Il est peut-être intéressant de prendre ces paroles de temps en temps pour notre vie quand on commence à avoir du mal dans la communion fraternelle, à avoir du mal avec les autres, parce que des choses se sont peut-être passées dans notre existence, alors on a du mal à considérer que Dieu nous aime aujourd'hui comme il nous aime au premier jour. Prenez la parole de Dieu et dites, mais où tu as vu que Dieu t'aimait aujourd'hui différemment que ce qu'il t'aime le premier jour? Sa parole nous dit que même avant sa naissance, il t'aimait déjà. Il y avait déjà de la compassion, de l'amour pour toi, et il a été te chercher. Il a été te chercher des extrémités de la terre. Il t'a appelé d'une contrée lointaine dans la boue du péché dans laquelle tu te trouvais. Là, il est allé te chercher et il a commencé à te dire, maintenant tu deviens mon serviteur, maintenant tu deviens ma servante. Je te choisis et je ne te rejette pas. Ne faites pas que de lire encore une fois cette parole. Prenez cette parole, appliquez-la. Elle est pour toi. Elle est pour toi. C'est Dieu qui te dit, je te rejette pas. Toi, tu te rejettes tout seul ou toute seule. Toi, tu t'éloignes. Toi, tu mets des barrières devant moi, mais moi, je n'en mets pas. La porte est ouverte. Je t'aime. Alléluia. Dans le domaine, par exemple, de choisir ses amis, ses relations, le psaume premier nous dit quoi ? Heureux l'homme ou la femme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Appliquons cette parole à notre vie aussi. Allons chercher et puis disons peut-être au Seigneur, eh bien, Seigneur, aide-moi à ne pas marcher selon le conseil des méchants. Aide-moi à ne pas être là en compagnie des moqueurs, de ceux qui se moquent, de ceux qui... Préserve-moi de ces choses-là. Et je crois que si nous appliquons la parole de Dieu, Dieu la met en pratique dans notre vie. Marcher dans la vérité également. Jean 16, 13 nous dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, je vous en parlais tout à l'heure, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Et là, on est tous confrontés à ça. Tous. Il y a des moments où on est là devant des carrefours, on dit, Seigneur, quelle direction il faut que je prenne? C'est tout droit, derrière, à droite, à gauche. Comment je fais? C'est où la vérité? Il faut que je le croie, il faut que je le croie pas. Il faut que j'avance, il faut que j'avance pas. Okay. Alors, au lieu de te casser les têtes comme ça, et tu commences à fermer les yeux, tu te souviens de la parole de Dieu. Seigneur, ta parole me dit que tu as envoyé le Consolateur. Toi, Jésus, tu es reparti à la droite du Père. Mais pour que nous ne soyons pas orphelins, tu as envoyé ton Esprit. Alors cet Esprit, maintenant, il est à l'œuvre dans ma vie. C'est un Esprit de vérité. Saint-Esprit, conduis-moi dans toute la vérité. Saint-Esprit, conduis-moi dans toute la vérité. On parle au Saint-Esprit. On ne prie pas le Saint-Esprit, on prie Dieu au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est là dans son ministère. Que son ministère s'accomplisse dans notre vie. Saint-Esprit, conduis-moi dans ta vérité. Montre-moi, ouvre mes yeux. Comme David le dira à un moment donné, donne à mes yeux de la clarté. Donne à mes yeux cette clarté nécessaire. Puis parfois, on a besoin de lutter contre certaines formes d'immoralité, même sur le plan de la sexualité, par exemple. Jacques chapitre 1, verset 12 nous dit, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. » Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Quand tu es tenté, quand tu es éprouvé, quand tu sens qu'il y a des fortes tentations sur la sexualité ou autre chose qui viennent et qui commencent à t'oppresser, rappelle-toi de cette parole. Commence à l'appliquer à ta vie et commence à parler au Seigneur en disant, Seigneur, 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 je veux cette couronne de vie. Je veux, Seigneur, cette couronne de vie. Je ne veux pas simplement qu'elle soit pour les autres, je veux qu'elle soit pour moi. Aide-moi alors à supporter patiemment cette tentation, à la retenir véritablement, à rester fidèle, tel que toi tu désires que je sois. Tu m'as réservé la couronne de vie. Je désire cette couronne de vie. Alléluia. Alléluia. Et puis je termine bientôt avec maintenant simplement quelques passages qui correspond un peu plus particulièrement au combat spirituel. La première chose que nous devons déclarer lorsque nous entrons dans le combat spirituel, c'est notre salut. Je suis très étonné de voir des personnes et comment le diable est en train d'agir. Très souvent, le diable commence à agir en mettant un doute dans certains cœurs de chrétiens qui sont parfois même convertis depuis de longues dates. Et il commence à mettre le doute du salut pour l'éternité. Certaines personnes sont là et on leur pose la question et certaines situations de leur vie, elles ne savent plus trop. Oui, oui, je suis sauvé, mais... Et le diable essaye de nous faire perdre cette conviction, cette assurance. Psaume 32, verset 1. Vous proclamez, je suis heureux parce que ma transgression a été remise et le péché qui me condamnait a été pardonné. Alléluia. Je suis heureux maintenant. J'étais condamné, c'est vrai. Ma transgression me salissait. Mais... je suis heureux parce que tu m'as pardonné. Alléluia. On commence par là et puis on avance un petit peu. Et puis la première chose que nous avons besoin, c'est de donner à Dieu le droit de faire ce qu'il veut dans notre vie. Je veux être transparent et clair avec toi. Et psaume 139 verset 24 nous dit, regarde Seigneur si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. En proclamant cette parole, vous êtes en train de dire au Seigneur, « Seigneur, je te permets d'entrer dans ma vie et je te permets de regarder ce qui se passe dans ma vie. » Et si ce que je vis, la situation où je suis, le travail dans lequel je me trouve, les loisirs que j'affectionne, ou ce que je fais, peu importe, je te permets d'y regarder. Je te permets d'avoir un regard. Et non simplement je te permets d'avoir un regard, mais en même temps je te permets de me parler. Et je te permets même de me dire, qu'est-ce que t'en penses, Seigneur ? Ah, des fois on n'ose pas dire, hein, qu'est-ce que t'en penses, Seigneur ? Il y en a qui sont là, ils hésitent, ils ne savent pas trop. Parce que des fois, d'avance, ils savent ce que le Seigneur en pense. Vous n'avez pas remarqué que parfois, on ne demande pas parce qu'on sait ce que Dieu va nous dire ? On voudrait commencer la prière et puis mentalement, on esquive. Parce que quelque part, on sait ce que Dieu va nous dire, on sait ce qu'il va nous répondre. Alors, on esquive. Non, le Seigneur nous apprend et veut que nous ayons une attitude de véracité. N'esquivons rien. Seigneur, regarde vraiment si je suis sur une mauvaise voie. Et si je suis sur une mauvaise voie, s'il y a quelque chose qui dans ma vie te déplaît, tu me montres ce qui te déplaît et toi tu me conduis sur la voie de l'éternité parce que je veux passer la bannière d'éternité. Je ne veux pas rester jusqu'avant. Comme parfois je dis à mes enfants, vous savez quand je dis à mes enfants, allez dépêchez-vous, faut qu'on y aille monter dans la voiture. Et il y a une réflexion qu'ils me disent souvent dont j'ai horreur, ils me disent tout ça, oui mais on y est presque. Je suis presque dans la voiture, je suis presque dans la maison, j'ai presque fini. Je dis oui, ben si t'as presque fini, t'as pas fini alors. Et moi j'aurais bien voulu que tu aies déjà fini. Et souvent je prends cet exemple-là pour dire, seulement certaines personnes, ils sont presque dans la vie pour l'éternité. Ils sont presque entrés dans le royaume de Dieu. Mais presque, c'est pas. Il faut entrer dans le royaume de Dieu. Je suis presque dans le combat spirituel, je suis presque dans l'intercession. Mais non, Dieu veut que tu entres dans l'intercession. Il veut que tu entres dans le combat spirituel. Pas que tu sois juste à la limite comme ça, en regardant et en contemplant les autres. Non, il veut que toi, tu entres pleinement. Alléluia. Je termine simplement avec deux autres versets. Pour apprendre à abattre les forteresses spirituelles qui ne sont pas de Dieu. Et il y a quelque chose de très simple dans un premier temps, c'est Matthieu 6,13. Parce que Matthieu 6,13, la Bible nous dit, délivre-nous du malin. Vous connaissez ? Prière sacerdotale. Moi, je prends que ça. Je ne sors pas du contexte, hein. Je ne prends pas des versets en sortant du contexte pour en faire un prétexte, comme on dit souvent. Hein. Non, je garde là, mais délivre-nous du malin. Eh bien, combien de fois on peut tomber dans des pièges ? Combien de fois le malin trace toutes sortes de choses dans notre vie pour que nous puissions succomber, pour que nous puissions chuter ? Et au départ, on y va des fois, mais on y va même franco. Hein. On a l'impression que tout va bien, ça continue. On a l'impression, parce qu'on est intègre, on est juste, mais il veut nous tromper. Si nous ne prions jamais en disant, Seigneur, délivre-moi du malin. Si vous ne vous levez pas le matin en disant, Seigneur, délivre-moi du malin, peut-être il a tendu des pièges, peut-être. Alors encore une fois, soyons s'il vous plaît équilibrés. Encore une fois, ne tombons pas, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois cette semaine, dans le mysticisme, dans des choses bizarres, où on voit le diable de partout, des démons de partout. Non, apprenons à voir là où ils sont. Et laissons les gens quand il n'y en a pas. Mais quand ils sont là, ayons le discernement pour les voir. Et s'il y a des pièges, eh bien justement, aie ce discernement pour ne pas tomber dans les pièges du malin. Et là, c'est une question de foi et de parole. Seigneur, délivre-moi du malin. Délivre-moi de ces pièges. Peut-être qu'il a tendu des choses comme ça. Fais-moi voir de manière vraiment clairvoyante. Il y a des choses peut-être que je ne vais pas comprendre. Peut-être qu'il y a des choses où moi j'aurais envie de dire oui, puis toi tu vas me sentir une réticence, tu vas me dire non, c'est pas là, pas maintenant, pas tout de suite. Parce que... Et nous, on ne sait pas. Mais lui, là-haut, le Seigneur, il sait pourquoi. Et nous devons lui apprendre à lui faire confiance. Et si nous prions en disant, Seigneur, délivre-nous des traits enflammés du malin. Délivre-nous de ces choses qu'il va appliquer sur notre vie. Alors nous serons garder, préserver et nous continuerons à avancer. Et puis, une dernière chose, on aurait pu continuer pendant 2 heures encore comme ça, mais dans 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 3, j'ai pris ce passage dans la version Parole de vie, et il nous est dit ceci, nous sommes des hommes, c'est vrai, pourtant, nous ne luttons pas d'une façon humaine. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines. Mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. C'est pas puissant ça? La force des armes de Dieu vient de lui et elles sont utilisées pour détruire tout ce qui voudrait lui résister. Oh, il nous faut nous réveiller aujourd'hui et prendre la conscience du combat spirituel. Nous avons des armes de Dieu qui sont puissantes pour détruire tout ce qui résiste. Il y a quantité de choses sur notre pays qui résistent à Dieu. Le problème, voyez, c'est l'identification. Et nous, chrétiens, on a un gros problème. C'est-à-dire, ce qui résiste à Dieu, souvent, se l'approprie à soi-même. Vous n'avez jamais remarqué, par exemple, que quand vous avez des gens qui parlent mal de Dieu, qui parlent mal de Jésus, qui blasphèment, etc., on a l'impression que c'est nous qu'ils insultent. On a l'impression que c'est nous qu'il sont contre nous qu'il blasphème. Et nous, parfois, on est plus vexés et plus blessés que Dieu lui-même. Laissons à Dieu ce qui lui revient. Arrêtons de juger à sa place. Disons, Seigneur, il y a des choses qui sont en obstacle contre toi aujourd'hui. Oui, il y a des gens qui te maudissent. Oui, il y a des gens qui blasphèment, qui lèvent le poing contre toi. Il y a des gens qui se moquent de toi. Toi, avec ces gens-là, tu fais ce que tu veux. Nous-mêmes, peut-être, nous étions comme ça. Puis tu nous as fait grâce. Tu nous as pardonné. Mais ce que je sais que nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous avons des armes qui servent à lutter contre ces gens qui blasphèment contre nom, qui s'opposent à ton nom, qui s'opposent à ta parole, qui s'opposent à l'ouverture des églises, qui s'opposent à l'évangélisation, qui s'opposent à ceci, qui s'opposent à cela, qui s'opposent. Mais nous, nous avons la puissance de renverser ces choses à cause du nom de Jésus-Christ. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses, est-il écrit ici. Nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. Alléluia! Notre guerre spirituelle, elle est là. Nous ne luttons pas contre cette chair, nous ne luttons pas contre ce sang, mais nous luttons spirituellement. Nous voulons changer l'esprit de ces gens qui n'obéissent pas à Christ. Ça, chers amis, frères et sœurs, c'est dans le combat spirituel que nous y arrivons, parce que c'est un miracle. Quand des hommes et des femmes, comme vous et moi, pendant des années, avons pensé d'une manière, réfléchis d'une manière, gérer notre vie d'une manière, et qu'à un moment donné il y a une conversion parce que nous commençons à penser d'une autre façon parce que Christ a touché notre cœur, c'est le plus beau miracle que Christ ne peut accomplir. Mais nous avons été, comme il est écrit par l'apôtre Paul, besoin d'être renouvelés dans nos pensées par l'Esprit de Christ. Alléluia. Henri de Ville en a parlé également, et nous bénissons Dieu pour cela. Alors voilà simplement quelques exemples de prières. Voilà comment vous devez apprendre à lire la parole de Dieu et comment vous devez l'appliquer sur votre vie et comment combattre de cette façon-là. C'est un faible exemple. La parole de Dieu est riche. Vous avez encore des centaines et des milliers de versets que vous pourriez utiliser d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ça commence à comprendre un petit peu ? Dans l'église, commencez à proclamer. Qui va vous dire quelque chose alors que vous proclamez la parole de Dieu ? Dites-moi. On va vous dire quelque chose, comme je disais tout à l'heure, si vous commencez à ronchonner, si vous n'êtes pas d'accord, parce qu'on ne loue pas comme vous avez envie, on ne prie pas comme vous avez envie, on n'adore pas comme vous avez envie, etc. Mais vous, si vous commencez à prier de cette manière-là, en proclamant la parole de Dieu, qui va vous dire quoi que ce soit ? Vous proclamez la parole. Vous proclamez l'évangile. Vous proclamez la parole de Dieu. Mais votre pasteur, les frères, les sœurs, personne ne vous dira rien. Vous proclamez la parole de Dieu. Alors battez-vous avec les armes intelligentes que Dieu nous a laissé. Alléluia. Et n'oubliez jamais que cette parole de vie, c'est un livre de dynamite. Et nous allons le placer à certains endroits stratégiques dans notre pays. Et à un moment donné, boum ! C'est puissant. C'est puissant. Je termine avec ce témoignage. Je crois que c'était à l'époque des tsars. Un jour, il venait, il circulait comme cela, puis il s'est arrêté. Parce que dans un champ, il a vu un paysan qui était à genoux au lieu de travailler. Alors il est descendu de son carrosse là, il est allé voir ce petit bonhomme, puis il lui a dit, vous faites quoi ? Vous devriez travailler ? Pourquoi je ne vois pas travailler dans votre champ ? Il lui dit, je prie. Et il dit, voyez pas la situation aujourd'hui ? Voyez pas la chute du régime et tout ce qui se fait ? Il le regarde, il fait, justement, je prie. Et il priait pour que ces choses passent, que ce tsar soit déchu, et qu'en fait, une nouvelle ère vienne sur le pays, dans la puissance de l'intercession, la puissance de la prière, des choses se débloquent. Alléluia.